Vous écoutez, on lit pour vous.
Des DPJ exigent des futures familles d'accueil qu'un parent reste à la maison. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir. Pour les futures familles d'accueil, des directions de la protection de la jeunesse, DPJ régionales, exigent que l'un des parents reste à la maison à temps plein pour s'occuper des enfants de moins de 5 ans, une condition qui ne fait pourtant pas partie des critères établis par le ministère, a appris Le Devoir. Une pratique dénoncée par la Fédération des familles d'accueil du Québec qui estime que cela nuit au recrutement. Vous ou votre conjoint ou conjointe, s'il y a lieu, pouvez tout à fait conserver votre emploi et assumer pleinement votre rôle de famille d'accueil. Toutefois, l'un des parents doit rester à la maison si vous accueillez un enfant de 5 ans ou moins. Peut-on lire dans la section destinée aux futures familles d'accueil sur le site web du CISSS de la Montérégie Est. Aux questions du devoir, on affirme qu'il s'agit d'une balise propre à l'établissement et non d'un critère exigé par le ministère. En effet, sur le site du gouvernement du Québec, il est clairement indiqué que la personne peut travailler à l'extérieur de la maison. Cette pratique, en vigueur depuis plusieurs années au CISSS de la Montérégie Est, repose sur des considérations cliniques liées aux besoins des jeunes enfants accueillis en famille d'accueil, explique le CISSS. Elle vise à assurer la présence stable d'au moins une figure importante dans le milieu de vie. Mais elle est appliquée avec souplesse, ce qui permet le recours à des remplaçants de confiance. Par ailleurs, 6 établissements sur 16 confirment au devoir demander qu'une personne soit à la maison à temps plein pour l'accueil d'enfants de moins de 5 ans, une condition appliquée et interprétée différemment d'une région à l'autre. Nous n'exigeons pas que les personnes démissionnent de leur emploi, mais on tient à être transparent sur le fait que l'accueil d'enfants de 0 à 5 ans demande une disponibilité bien plus grande que pour des enfants d'âge scolaire, explique le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous nous assurons de bien comprendre le plan d'organisation des familles si celles-ci souhaitent conserver leur emploi. Par exemple, une grand-mère peut offrir du soutien à la maison ou autre. Au CISSS de Chaudière-Appalaches, on souligne que les familles accueillent souvent plus d'un enfant et que les arrivées peuvent survenir à tout moment. Peu d'emplois permettent une telle flexibilité, avec des entrées et des sorties répétées sur des périodes de quelques mois, explique le CISSS, qui précise que la durée pendant laquelle une présence constante est requise peut varier selon la capacité d'adaptation de l'enfant. Nous n'exigeons pas que les personnes démissionnent de leur emploi, mais on tient à être transparent, CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le CISSS reconnaît, comme celui de Lanaudière, que ces exigences représentent un défi pour le recrutement, mais il affirme que cela permet de mieux répondre aux besoins des enfants. Manque de place en garderie. Mais pourquoi les familles d'accueil ne peuvent-elles pas, comme tous les autres parents, envoyer leurs protégés dans un service de garde? Nous souhaitons que les enfants puissent d'abord s'adapter à leur nouvel environnement avant de fréquenter un milieu de garde, explique le CISSS de Chaudière-Appalaches. La majorité de ces enfants sont vulnérables et ont vécu des expériences traumatiques importantes. Leurs capacités et leurs besoins ne sont pas comparables à ceux d'enfants ayant évolué dans un milieu sécurisant et stable. Les établissements concernés évoquent surtout le manque de place en garderie pour expliquer cette demande. Plusieurs enfants n'ont pas accès à une place en garderie ou ne sont pas en âge d'intégrer un milieu de garde, explique le CISSS de l'Outaouais. Une présence permanente assure donc que l'enfant bénéficiera d'un environnement stable. D'autres soulignent que l'inscription à un service de garde peut être plus compliquée car elle nécessite l'autorisation des parents biologiques. Une pratique dénoncée. Ces explications ne trouvent pas grâce aux yeux de la présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec, Mélanie Gagnon, qui dénonce cette pratique depuis un certain temps auprès des instances appropriées. Bien sûr, l'intérêt supérieur de l'enfant est primordial et la stabilité est essentielle. Mais cette stabilité-là ne doit pas reposer uniquement sur l'isolement du parent à la maison. Un enfant placé devrait bénéficier de la socialisation et avoir une vie la plus normale possible au sein de sa famille d'accueil, plaide Mme Gagnon. Elle rappelle que les familles d'accueil sont des familles normales qui, comme la majorité des ménages québécois, doivent concilier travail et vie de famille face au coût de la vie. Non seulement ces pratiques privent des enfants de foyers aimants, mais elles s'inscrivent également dans un système qui peut décourager l'engagement et créer un manque de familles d'accueil, déplore-t-elle. Pour corriger cette inégalité et soutenir les familles, il est impératif d'envisager des solutions concrètes, comme la réservation de places en CPE pour les enfants en famille d'accueil ou l'accès aux prestations parentales pour toutes les familles d'accueil. Harmonisation des pratiques. Les établissements ont le droit d'imposer des critères d'évaluation spécifiques pour répondre aux besoins particuliers des usagers tant qu'ils respectent les orientations ministérielles Réponse Santé Québec. On leur demande toutefois d'être vigilants quant à l'ajout d'objets d'évaluation appliqués de façon systématique, lorsque les exigences ne sont pas explicitement prévues aux orientations ministérielles. Santé Québec souhaite par ailleurs harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire. On prépare à cet effet un portrait national de ce qui est imposé dans les différents établissements, critères qui seront analysés sur la base des causes et des répercussions. Par la suite, on pourra, au besoin, apporter les clarifications nécessaires afin d'assurer une application cohérente et conforme aux orientations ministérielles. C'était « Des DPJ exigent des futures familles d'accueil qu'un parent reste à la maison », un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir.
Exit les sessions d'examen de fin d'année dans un nombre croissant d'écoles. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 27 janvier 2026 dans Le Devoir. De plus en plus d'écoles de la province annulent des sessions d'examen maison, notamment en fin d'année, afin d'augmenter le temps d'apprentissage offert à leurs élèves. Une décision qui complexifie le travail de nombreux enseignants qui appréhendent par ailleurs une augmentation du plagiat entre élèves ou encore à l'aide de l'intelligence artificielle. En décembre 2024, à la suite de plaintes de parents d'élèves fréquentant des écoles du Centre de services scolaires, CSS de Portneuf, la protectrice régionale de l'élève avait alors émis un avis recommandant à l'organisation de privilégier l'utilisation du temps normal de classe pour réaliser des examens autres que les épreuves ministérielles ou institutionnelles, afin de maximiser le temps d'apprentissage des élèves en évitant d'annuler des demi-journées de classe inutilement. L'objectif de cet avis était de s'assurer que les élèves reçoivent des services de qualité pendant un minimum de 180 jours par année. Depuis, une réflexion de fond en matière d'évaluation durable a été entamée au sein de cette organisation avec comme objectif de favoriser des pratiques évaluatives qui soutiennent l'apprentissage en continu, en intégrant plus d'examens dans l'horaire régulier des élèves, indique-t-elle dans un courriel au Devoir. C'est dans ce contexte que le CSS de Portneuf a décidé de retirer les sessions d'examen qui avaient lieu en cours d'année scolaire pour ne conserver que celles du mois de juin, le tout afin de maximiser le temps d'enseignement et d'apprentissage en cours d'année. On parle vraiment des évaluations maison qui n'ont plus de session avec un horaire fixe qui leur sont consacrés, tandis que les examens du ministère continuent d'avoir lieu à l'extérieur du cadre des heures de cours, explique en entrevue l'enseignant Sylvain Duclos. Un mouvement provincial. Ce sont d'ailleurs de plus en plus d'écoles qui empruntent cette voie, constate l'enseignant. C'est le cas notamment du CSS des affluents, dans Lanaudière, qui a annoncé tout juste avant les vacances des fêtes à ses enseignants qu'il n'y aurait pas cette fois de session d'examen de fin d'année entre les murs de leur école, exception faite pour les examens ministériels. Cette décision permettra de dégager environ 7 journées qui étaient auparavant consacrées à des journées d'examen, affirme le CSS dans une réponse au Devoir. Ce gain en temps d'apprentissage s'explique par le fait que les sessions d'examen impliquaient une série de demi-journées à l'école pendant lesquelles les cours étaient suspendus, même si aucun examen n'avait lieu, tandis que, désormais, un élève ayant un examen le matin aura tout de même des cours l'après-midi, puisque ces derniers ne seront pas suspendus. Un courriel interne destiné aux employés du CSS des Patriotes en Montérégie prévenait pour sa part ceux-ci, en novembre dernier, que les enseignants devaient s'attendre à tenir à l'avenir des examens internes pendant leurs heures de cours et non dans une session d'examen, le tout afin de maximiser le temps passé par les élèves en classe. Nous savons que ces ajustements demandent de revoir certaines habitudes bien ancrées. Sachez cependant que nous ne sommes pas seuls. Plusieurs autres centres de services scolaires ont déjà emboîté le pas dans le même sens, indique le courriel, qui fait état d'un mouvement provincial visant à mieux respecter les exigences du régime pédagogique. Joint par le Devoir, le CSS des Patriotes affirme cependant être toujours en réflexion, comme d'autres centres de services scolaires au Québec, quant à l'avenir de ces sessions d'examen et donc n'avoir pris aucune décision à cet égard. Le CSS des Samar, dans Lanaudière, a pour sa part décidé dès l'année scolaire 2021-2022 de mettre fin, progressivement, aux examens à horaires bloqués, indique-t-il par courriel. Nos élèves sont au cœur de cette décision puisque celle-ci vise à augmenter leur taux de diplomation et de qualification par l'utilisation de pratiques d'évaluation au service de l'apprentissage tout au long de l'année scolaire, affirme l'organisation. Il y aura du plagiat, c'est inévitable. Cet engouement des CSS à l'égard du retrait de sessions d'examen ne fait toutefois pas l'affaire de plusieurs enseignants. Ces derniers doivent maintenant revoir la durée de leurs évaluations pour que leurs élèves, dans la mesure du possible, puissent effectuer celles-ci dans une période de cours. Et lorsque ce n'est pas possible, certains examens nécessitant jusqu'à 3 heures, soit le triple de la durée d'un cours au secondaire, les enseignants doivent faire preuve d'ingéniosité pour limiter le risque de tricherie entre les périodes destinées à une même évaluation. Ça oblige souvent l'enseignant à faire des versions différentes d'examens pour éviter le plagiat et la divulgation d'informations par des élèves entre des périodes de cours, relève le président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, Richard Bergevin. Or, il y aura du plagiat, c'est inévitable, prévient Luc Papineau, qui enseigne dans une école de Lanaudière. Un risque qui est particulièrement grand à l'ère de l'intelligence artificielle que des élèves pourraient utiliser pour rédiger des réponses à leurs questions d'examen entre 2 périodes de cours, relève la vice-présidente à la vie pédagogique de la Fédération autonome de l'enseignement, France-Dominique Bellan. Le retrait de sessions d'examen pourrait par ailleurs empêcher des élèves de bien se préparer aux longues évaluations ministérielles et donc nuire à leur performance pendant celle-ci, estime Mme Bellan. Même si on retire les sessions d'examen, les examens ministériels resteront. Et donc, ce qui arrive, c'est que les élèves vont vivre beaucoup d'anxiété parce que c'est quelque chose qui va être nouveau pour eux parce qu'ils n'auront jamais été exposés à ce type de fonctionnement-là, évoque-t-elle. Or, si l'élève ne réussit pas l'examen ministériel, il va se retrouver avec de gros problèmes. C'était « Exit les sessions d'examen de fin d'année dans un nombre croissant d'écoles », un texte de Zachary Goudreau, paru le 27 janvier 2026 dans Le Devoir.
Les expériences de volontariat séduisent aussi les retraités, un texte de Sarah Collardet, paru le 15 décembre 2025, dans Le Devoir. Une ferme biologique au Québec, un refuge animalier en Équateur, un projet écologique au Portugal, la retraite offre un passeport pour l'inconnu. De plus en plus de personnes dans la soixantaine partent à l'aventure avec des organismes de volontariat, une tendance longtemps associée aux jeunes voyageurs. Selon Rodolfo Montu, responsable marketing chez World Packers, une plateforme qui met en relation des voyageurs avec des hôtes dans le monde entier, ce type de voyage est pratiqué historiquement par des personnes âgées de 18 à 35 ans. Toutefois, l'organisme observe aujourd'hui une participation croissante des familles, des professionnels en milieu de carrière et des retraités. Une évolution qu'il décrit comme l'une des tendances les plus inspirantes. À Montréal, Caroline Gélina, retraitée depuis 5 ans, cherchait quelque chose pour occuper sa retraite parce qu'elle avait du temps et de l'énergie, mais aussi pour donner aux suivants. En naviguant en ligne, elle découvre l'organisme Workaway qui met en relation des voyageurs avec des hôtes, familles, associations, entreprises, à travers le monde entier et part en voyage 2 années de suite. En 2022, en Équateur, pour du volontariat dans un refuge de chiens et de chats, puis aux États-Unis en 2023, pour un ménage de printemps chez une Américaine qui avait besoin d'aide. Un rêve. À la soixantaine, plusieurs personnes souhaitent donner du sens à cette nouvelle étape de vie. Leurs enfants ont grandi, elles ont pris leur retraite ou elles souhaitent simplement vivre une nouvelle aventure qui a du sens. Nous avons eu des bénévoles dans la soixantaine qui ont planté des arbres au Costa Rica, aidé des organisations non gouvernementales en Tanzanie ou soutenu des projets écologiques au Portugal, illustre M. Montu. Pour d'autres, c'est l'occasion de réaliser un vieux rêve. Muriel Missé, 57 ans, installée au Québec depuis 37 ans, a travaillé toute sa vie à son compte, à la tête d'une entreprise dans le textile. Depuis toujours, je voulais voyager à temps plein, dit-elle, mais ses obligations professionnelles et familiales l'en empêchaient. Dans les dernières années, quand elle le pouvait, elle a pris quelques congés pour faire du volontariat dans des fermes biologiques avec l'organisme WWOOF, l'acronyme de Worldwide Opportunities on Organic Farms, qui mettent en relation des bénévoles, woofers, avec des fermes biologiques dans le monde entier. Je voyage, puis à un moment donné, je m'ennuie. Je me dis, ben qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je vais voir le site de Woof, mais je suis toujours dernière minute. Je ne planifie jamais rien, raconte-t-elle. En 2023, Madame Missé met en vente son entreprise et sa maison et aménage sa camionnette pour pouvoir y vivre et réaliser son rêve, parcourir la route panaméricaine qui va de Prudhoe Bay en Alaska à Ushuaia en Argentine. Des événements familiaux l'ont obligée à mettre son rêve sur pause et à revenir au Québec. Elle vit toujours dans sa camionnette, mais fait régulièrement du « woofing » lorsqu'elle veut rencontrer des gens ou, en hiver, lorsqu'il fait trop froid, pour dormir dans son véhicule. Échange et partage. Originaire du bas du fleuve, Brigitte Nadeau, 60 ans, vit à Toronto depuis 35 ans. Elle fait du volontariat dans des fermes avec l'organisme « Woof » depuis juillet 2023. « J'avais le goût de faire une expérience et d'apprendre », explique-t-elle. À raison d'une fois par an, elle part à l'aventure dans des fermes québécoises pour retourner à ses sources, ayant grandi à la campagne, mais aussi pour voir sa famille. Il y a tellement d'opportunités d'apprendre la cultivation de la terre, l'élevage des animaux ou les plantes médicinales, affirme-t-elle. C'est extraordinaire, tout ça. Selon elle, ces expériences permettent d'apprendre des autres, ce qui est très bénéfique. Mais aussi, quand tu as 60 ans, tu en as du vécu, puis ce vécu peut être partagé avec d'autres, avec des jeunes aussi, des jeunes fermiers. Donc, c'est vraiment une opportunité d'échange culturel, ajoute-t-elle. Madame Gélina évoque également un échange culturel. D'un côté, elle apprend l'anglais à des enfants ou encore elle soigne des animaux en refuge. De l'autre, elle en apprend beaucoup sur la culture du pays dans lequel elle voyage étant hébergé par des locaux qui lui donnent souvent des recommandations de lieux à visiter, méconnus des touristes. J'apprends déjà des modes de vie différents. J'apprends à cultiver, à cueillir, à transformer. J'apprends beaucoup, souligne pour sa part Madame Missé. Mais surtout, j'apprends sur moi et le rapport avec les autres. Le woofing se définit comme un échange éducatif au sujet des pratiques agricoles écologiques et des modes de vie durable, explique Catherine Dallaire, coordinatrice chez Woof Canada. C'est aussi un échange culturel entre des gens qui viennent de toutes sortes d'horizons. Elle qualifie ce concept d'unique au monde. Du côté de World Packers, M. Montu résume l'expérience en termes d'immersion et de croissance personnelle. Le volontariat permet de vivre au rythme d'une communauté et de voir à travers les yeux des habitants. Les personnes peuvent acquérir de nouvelles compétences, des langues à la permaculture, en passant par l'hospitalité ou les outils numériques, qui souvent façonnent notre vie bien au-delà du voyage, ajoute-t-il. Accessibilité. Dans le cadre de ses missions, Madame Gélina n'a jamais reçu de rémunération, mais elle était logée et régulièrement nourrie. C'est sûr que ça m'arrangeait financièrement, reconnaît-elle. Selon elle, le concept du voyage est souvent pensé pour deux personnes, notamment les hôtels. Le fait d'être logé permet ainsi de réduire la facture du voyage. Elle précise toutefois que ce n'est pas sa motivation principale. Madame Missé abonde dans le sens de Madame Gélina. Le woofing, ou les échanges de services contre un hébergement, est un moyen accessible de voyager, mais ça reste dans le cadre d'un échange de services, d'un travail. Elle ne voyage pas de cette façon pour des raisons économiques, mais s'estime chanceuse de ne pas avoir besoin de se préoccuper de cet aspect pendant ses voyages. Monsieur Montu met en avant l'accessibilité, sans vouloir parler de voyage à moindre coût. Les voyages traditionnels peuvent être coûteux, mais lorsque vous échangez votre temps et vos compétences contre un hébergement, des repas ou un apprentissage, le monde devient beaucoup plus accessible. Fraîchement retraitée depuis quelques semaines, Madame Nadeau espère avoir l'occasion de partir 2 à 3 fois par an, maintenant qu'elle a du temps libre. Elle aimerait aussi profiter de ses expériences pour voyager dans d'autres provinces comme l'Ontario ou la Colombie-Britannique, voire carrément d'autres pays. Elle rêve de visiter le Portugal, par exemple, et pense aller y passer 2 ou 3 semaines dans une ferme pour découvrir la culture. Muriel Missé espère pouvoir reprendre son projet de la route panaméricaine dans la prochaine année. Elle se donne 10 ans pour la parcourir. J'aime voyager, mais surtout, j'aime prendre le temps, conclut-elle. C'était « Les expériences de volontariat séduisent aussi les retraités », un texte de Sarah Collardet, paru le 15 décembre 2025 dans Le Devoir.
Un outil pour mesurer les buttes de neige avec l'IA voit le jour. Un texte de Simon Gionnet, paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir. Un entrepreneur de Montréal a confectionné un outil utilisant l'intelligence artificielle, IA, qui permet de mesurer la taille des buttes de neige dans les cours d'école du Québec, récemment visées par une limite controversée pour des raisons d'assurance. Son créateur, Guillaume Eckerle, a eu l'idée durant le temps des fêtes, quelques semaines à peine après la petite saga médiatique entourant les recommandations critiquées de l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec, URASQ, sur la sécurité des buttes de neige dans les cours des écoles québécoises. L'URASC, qui est l'assureur d'une grande partie du réseau de l'éducation, suggère notamment une hauteur de butte de 1,8 à 3 mètres, une pente d'environ 25 % ou, encore, des zones de récupération et d'attente délimitées. Ces recommandations avaient été jugées irréalistes et ingérables en décembre 2025 par André Bernier, le président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, AQPDE. D'abord un peu pour rire, puis à l'initiative d'un ami travaillant dans les assurances, l'entrepreneur spécialisé en IA est venu à mettre au point en quelques heures un site web permettant de mesurer la hauteur d'une butte de neige à partir d'une photo analysée par l'assistant IA Gemini. Le résultat, soit le site checkmabutte.ca, permet en quelques clics d'obtenir une estimation de la taille de la butte photographiée, de sa pente et des éléments environnants, le tout accompagné de recommandations pour rendre l'espace plus sécuritaire. Le Devoir a testé quelques images, dont l'une de notre photographe Valérian Mazzato, pour en observer le fonctionnement. M. Eckerl aspire à commercialiser cet outil, encore perfectible, qui pourrait répondre aux besoins du réseau de certaines commissions scolaires. Bien qu'il avoue avoir trouvé exagérées les recommandations sur les buts lorsqu'elles ont été rapportées dans les médias, il dit avoir réfléchi à la position des parents et fait valoir que la plateforme peut être utile en cas de blessures graves d'enfants, commotion cérébrale ou fracture, notamment en permettant aux parents d'intenter une action juridique si la taille de la butte où l'accident s'est produit dépassait la limite permise. À l'inverse, l'outil pourrait aussi permettre à l'école de se prémunir contre une poursuite en cas de limite de hauteur respectée. Ne craint-il pas de provoquer un effet pervers amenant les commissions scolaires à réduire davantage l'espace de jeu des élèves par risque de poursuites judiciaires ou, encore, en ajoutant une pression supplémentaire sur les enseignants qui surveillent tant bien que mal le chaos d'une cour d'école durant l'hiver? Guillaume Eckerl dit y avoir pensé, mais il estime que le risque de poursuite existait avant la création de son site Web. C'est plus un outil d'aide à la décision, et ça permet aussi de rassurer tout le monde, à savoir si la mesure de la butte est la bonne. Questionné sur l'utilité et la logistique entourant le déploiement de cette technologie, il estime que la vraie réponse viendra du milieu de l'éducation. À ce sujet, il indique avoir contacté différentes commissions scolaires et être entré en contact avec deux d'entre elles. C'était « Un outil pour mesurer les buttes de neige avec l'IA, voit le jour ». Un texte de Simon Gionnet, paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir.